Donc le principe de ces ateliers, c'est donc d'inviter, là en l'occurrence trois personnes, à débattre de questions autour de l'insertion des jeunes. Et donc le principe, c'est d'inviter un professionnel qui vient à la fois témoigner de son expérience, mais aussi d'apporter un regard d'expertise, réflexif sur sa propre expérience, d'inviter un chercheur qui a travaillé autour de ces questions-là, des jeunes de l'insertion, et d'inviter également un chercheur de l'équipe Étape. Donc voilà, ce premier atelier où donc chacun d'entre eux va prendre la parole à tour de rôle, et l'idée c'est qu'on puisse débattre ensuite, après les trois interventions, échanger. Donc voilà, il faut que vous preniez quelques petites notes, parce que souvent dans ces ateliers-là, quand les trois interventions s'enchaînent, souvent on a tendance à oublier un peu ce qui s'est dit au départ. Donc n'hésitez pas à consigner deux, trois petites questions pour que, voilà, pour que vraiment ça porte sur l'ensemble des trois interventions qui elles-mêmes peuvent être mises en débat. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'atelier. Donc je vais d'abord donner la parole à Fabrice Charbonnier, qui est directeur de l'école de la deuxième chance. Alors, je trouve ça plus facile à dire que E2CEL, mais c'est la même chose. Voilà. Et puis ensuite, donc, c'est Laurent Rio qui prendra la parole, qui est sociologue au GERS, et donc Gérald Oudeville qui interviendra en dernier lieu et qui, lui, a travaillé donc dans le cadre d'étapes sur un dispositif particulier qui est le dispositif lié à l'EPID. Voilà. Donc, on a une bonne heure et quart voilà, d'intervention, et puis ensuite une demi-heure, trois quarts d'heure de débat. Donc Fabrice, je vous laisse la parole.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter un des axes pédagogiques qui ont servi à l'écriture du projet d'établissement de l'école de la deuxième chance de l'estuaire de la Loire. On en a plusieurs, mais celui que je vais vous présenter s'appelle le territoire apprenant. Pour la définition précise du territoire apprenant, je vous renverrai sur les travaux de Monsieur Biais, Bernard Biais, hein, qui, grosso modo, je vous lis une citation rapide, et puis après, ça sera fini pour les citations. La ville éducatrice, à l'opposé d'une logique qui confierait l'éducation aux seules institutions légitimes, implique une forte dynamique communautaire fondée sur la mobilisation des savoirs de tous sans exclusive. Donc, autrement dit, le territoire apprenant, transposé au champ de la formation, hein, parce que moi, je ne parle que de la formation, ça serait une approche pédagogique qui poserait comme principe pédagogique que tous les acteurs d'un territoire déterminé, toutes les institutions d'un territoire déterminé, au regard de leur champ de compétences respectives, bien sûr, sont potentiellement des ressources formatives pour les gens qui ont à apprendre quelque chose de ce territoire. Bon, alors, si vous avez fait un peu attention, vous avez dû remarquer déjà que j'ai utilisé pas mal de conditionnels. Je continue à en utiliser, parce que bien qu'on développe cette approche depuis l'ouverture de l'école, donc depuis bientôt 3 ans, on est balbutiant, c'est une expérimentation, il est encore peut-être un peu tôt pour être très affirmatif sur ce qu'elle apporte en termes d'approche pédagogique. Ce postulat ou cette approche-là pose certaines questions. D'abord, de l'envie, de la disponibilité de ces personnes constituant le territoire de devenir des formateurs potentiels. Est-ce que si j'ai envie que la CAF forme mes publics à ce qu'ils sont, à ce qu'apporte la CAF, etc. Est-ce que la CAF a envie d'assumer ce rôle-là, par exemple? Donc ça, c'est la première question, parce qu'on peut décréter en tant que directeur de centre de formation qu'on va travailler avec les acteurs locaux, mais si les acteurs locaux n'ont pas envie, ça pose un vrai problème. Après, c'est parmi la multitude des interlocuteurs possibles, qui on repère, avec qui on travaille, pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre? Donc c'est l'autre question à se poser. Et puis après, des aptitudes, des potentiels de nos publics à apprendre comme ça. Et puis quels prérequis ça suppose? Et puis comment on va préparer les publics à développer ces prérequis pour que ça marche? Et puis enfin, la dernière question qu'on s'est posée quand on a posé ce postulat pédagogique, c'est quid du référentiel de formation? Est-ce qu'une approche de ce type-là remet en cause la notion même de référentiel de formation? Comment on le constitue? Comment on le construit et comment on se l'approprie. Mais malgré ces postulats un peu réticents, il y a quand même des choses qui nous intéressaient énormément. C'est d'abord qu'on affirmait la légitimité de celui qui parlait, de celui qui disait la connaissance ou qui disait le savoir. C'est-à-dire que si je veux parler de comment on recrute dans une entreprise de grande taille, est-ce qu'un formateur à l'école est plus ou moins légitime qu'un DRH d'une grande entreprise qui viendrait parler d'eux ? Donc voilà, là, on affirme la légitimité de celui qui parle. L'autre intérêt, c'est que ça oblige à travailler sur la notion de la transversalité des approches. Donc ça, je m'en expliquerai tout à l'heure. Et puis, l'autre grand intérêt, c'est qu'on repositionnait l'apprenant comme étant l'acteur central de son parcours de formation, puisque c'est lui qui va devoir aller à la rencontre des acteurs de ce territoire apprenant et de faire une espèce de mayonnaise, si vous me passez l'expression, de toutes ces rencontres pour essayer de produire un savoir ou produire une connaissance à partir de ces rencontres. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui nous intéressait bien et qu'on avait envie de travailler. Et puis, l'autre intérêt, c'était un présupposé pédagogique, c'est qu'on avait peut-être là une approche qui permettait de faire passer l'apprenant d'une situation de consommation de savoir à une situation de production de savoir, puisqu'on allait lui demander d'aller à la recherche d'informations sur un territoire pour en faire une connaissance qui répondait à ses questions, donc sa connaissance propre au regard de ses questions propres. Donc si on veut essayer de schématiser ça, et si ça apparaissait à l'écran, ça serait pas mal... le territoire, j'ai rien, c'est bien ça, on va continuer comme ça, non plus, bon, on va... j'avais un beau schéma pourtant, qu'est-ce qui se passe, Ah bah oui, mais c'est, j'aurais voulu... Si on clique dessus, qu'est-ce que ça donne ? Voilà.
En fait, il ne veut pas le mettre en plein écran.
C'est marrant, il affiche la première diapo.
Non, mais c'est parce que je pense qu'il est hors cadre.
C'est-à-dire ?
Je suis hors cadre, moi.
Non. Non, bah, et si tu appuies sur l'écran plein à gauche, là, ça ne marche pas, en fait.
Bon, on va essayer de faire...
Tu cliques le petit bleu, là, le petit truc bleu. Hop. En haut, à gauche.
Bon, on va faire comme ça. Donc l'idée, c'est de positionner un ou des apprenants qui sont sur un territoire, donc c'est le camembert bleu, hein, qu'on va mettre en relation avec des acteurs, c'est les petits points rouges, donc les flèches matérialisent l'interaction, et on se dit que cette relation, le présupposé, c'est que cette relation avec des interlocuteurs... va permettre au savoir, à l'apprenant de produire un savoir. C'est l'idée de la petite ampoule qui s'allume. Et on peut poser ce schéma-là en comparaison de celui-là, qui est un schéma que vous connaissez tous, hein, ou sans doute tous, qui est le schéma classique de la relation de formation, des apprenants, des savoirs, et un pédagogue qui est là pour faire en sorte que l'apprenant et le savoir se rencontrent et que l'un rentre dans la tête blonde de l'autre. Donc, mais je reviendrai à ce deuxième schéma tout à l'heure. Quels sont les effets attendus ? Quels sont les intérêts pédagogiques supposés de cette démarche ? Et quelles sont les limites qu'on pourrait y poser ? Alors, la première chose, c'est que moi, je vous parle en tant que directeur de l'école de la deuxième chance, donc une association particulière avec des objectifs d'apprentissage particuliers et définis, avec un public particulier et défini, et je n'ai pas prétention à dire que mon propos est généralisable à tout dispositif ou toute structure de formation. Après, on pourrait en avoir le débat si vous souhaitez, mais moi, ma place, elle est celle-ci, et je parle de cet endroit-là. L'un des grands attendus de cette approche, c'est qu'elle permette... aux apprenants de construire un savoir polymorphe, entre guillemets. C'est-à-dire que plutôt que de leur faire une séance de face-à-face pédagogique sur qu'est-ce que c'est que le secteur associatif ou comment être militant dans une association ou qu'est-ce que ça apporte d'être dans une association quand on est en recherche d'emploi, etc., plutôt que de leur faire un cours un peu docte là-dessus ou une séance de face-à-face pédagogique, l'intérêt, c'est qu'ils aillent rencontrer des acteurs, qu'ils entendent plusieurs positions, plusieurs échos sur ces questions-là, et qu'à partir de là, ils puissent construire une réponse à cette question-là. Donc on est bien sur un savoir qui n'est pas unique et transmis, mais quelque chose qui serait polymorphe et qui serait co-construit. Donc ça, c'était le premier supposé, et il nous intéressait parce que, compte tenu des publics auxquels on s'adresse, il était évident que, de toute façon, reproduire une approche trop proche du système scolaire eu égard à ce qu'ils ont vécu dans le système scolaire était prendre un risque évident de dysfonctionnement au sein de l'école de la deuxième chance. C'est un peu déconstruit mon propos, vous m'en excuserez. C'est quelque chose, par exemple, cette approche-là qui se fait depuis longtemps, notamment dans la relation avec l'entreprise. Si on parle des CFA, si on parle de l'alternance, on n'a pas attendu l'école de la deuxième chance ou le territoire apprenant pour construire ça. L'idée du territoire apprenant, c'était d'être plus large que la simple relation entreprise et de se dire que quasiment tout sujet peut être appréhendé de cette approche-là. Et non pas que la relation au monde économique. Et quand je dis tout sujet, ça peut être poussé jusqu'à la réflexion que l'ensemble des 8 compétences clés, je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, peut être appréhendé sous cette approche-là, puisque l'intérêt des compétences clés, c'est qu'elles posent le savoir comme étant un savoir mobilisé en situation, puisqu'on parle de compétences. Donc le mieux, c'est de mettre la personne dans une situation réelle où elle va devoir mobiliser ces connaissances-là. Donc pour nous, l'intérêt, c'était de croiser cette approche de territoire apprenant avec l'approche des compétences clés et de voir comment l'un pouvait être au service de l'apprentissage de l'autre. L'autre aspect, c'était de se dire, est-ce que mon petit pédagogue qui est à droite, là, et je vais être un peu provocateur volontairement, il a toute sa place dans ce cas-là? Ou est-ce que tous les interlocuteurs peuvent être potentiellement comme ça décrétés pédagogues? Est-ce que sous prétexte qu'on va envoyer un jeune voir la médecine du travail, le médecin du travail qui va avoir en face de lui, de fait, va être un bon pédagogue? Sinon, bah, ça pose quand même des questions. Voilà. Donc ça, c'était tous les intérêts de la démarche. Et puis, troisième intérêt et surtout troisième limite, comment on fait pour que mon petit apprenant qui est à gauche, là, ça ne l'insécurise pas, tout ça. Parce que si je prends un stagiaire à l'école de la deuxième chance et que je lui dis, ben voilà, pour apprendre, tu vas aller rencontrer le DRH d'IKEA, tu vas aller rencontrer le médecin du travail qui est rue machin, tu vas aller rencontrer la présidente de l'association Casta Routine, tu vas aller rencontrer, et grâce à ces rencontres-là, tu vas apprendre des choses. C'est un tout petit peu insécurisant. Je ne sais même pas si moi, compte tenu du fait que je suis plutôt quelqu'un d'à peu près inséré, d'à peu près bien dans ma peau, je ne sais pas si je l'aurais bien vécu. Donc comment je fais porter ça sur la tête de mes apprenants qui ne sont pas forcément déjà dans une situation de sécurité et qu'on va insécuriser? Troisième et enfin, dernière question, est-ce que nos apprenants sont en capacité de le faire? Est-ce qu'ils maîtrisent les transports, des choses toutes simples, hein. Est-ce qu'ils maîtrisent les transports en commun qui vont leur permettre d'aller à la rencontre d'eux? Est-ce qu'ils maîtrisent le territoire dans lequel ils vivent et qui leur permet de se déplacer dedans, de l'appréhender, etc., etc.? Donc il y avait des intérêts évidents en termes d'approche pédagogique, mais il y avait aussi plein de questions et donc plein de limites potentielles. Ça nous a amené à réfléchir sur les conditions de mise en œuvre de ce projet pédagogique. Et donc je vais aller sur la quatrième diapo. Et en principe, ça devait apparaître les uns après les autres. Mais bon, l'animation ne marche pas, donc je vais essayer de faire une animation fictive. La première question qu'on s'est posée, c'est quid de la définition des objets d'apprentissage? Et en fait, on en est venu à dire que ça, c'est du ressort de l'organisme de formation. C'est à nous, centre de formation, de définir qu'est-ce qui est à apprendre, par qui et comment on va aller mobiliser le territoire, donc qui on va mobiliser au sein de ce territoire pour participer à l'appréhension de ces apprentissages. C'est aussi du ressort, bien sûr, des financeurs. Mais en tout cas, je ne pense pas que dans la notion de territoire apprenant, il faut interpeller les partenaires sur le territoire pour leur dire qu'est-ce que vous avez envie d'enseigner à nos petites têtes blondes. Ce n'est pas à eux, dans ce partage, de le faire. C'est au centre de formation, aux financeurs, de le décréter à l'avance. En même temps, c'est aussi à nous de s'interroger sur les autres attentes, hein, l'individualisation des parcours, l'appropriation des compétences clés, et comment on fait que tout ça, ça se mixte. Après, on est un peu dans une chronologie, là. Il faut définir qu'est-ce qui du ressort des acteurs, hein, tout en sachant qu'il s'agit d'un processus. Donc c'est ça relève potentiellement de plusieurs acteurs. Mais si dans la liste des 8 compétences clés, je me dis l'éveil à la culture sur le territoire va relever plutôt du secteur associatif, des associations culturelles, et puis des théâtres, etc., etc., c'est à nous, centre de formation, de dire ça, ça relève de tels acteurs, ça relève de tel autre acteur, et c'est donc à nous de les pré-repérer. Après, il faut partager avec ces acteurs cette répartition, et là, il faut quand même solliciter leur avis et leur point de vue sur ce qui a été préconstruit. Donc, au préalable, il faut avoir constitué ces réseaux-là. Et c'est là que la question de... Je l'ai volontairement fait de manière un peu provocatrice, j'ai mis 2 points d'interrogation à côté des pédagogues. Est-ce qu'une équipe de formateurs, constituée uniquement de formateurs, est suffisante pour mettre en place un projet pédagogique de ce type-là ? Et je vais y répondre tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut constituer des réseaux et des vrais réseaux de partenaires. Et non, et je vais y revenir tout à l'heure aussi, ça veut dire qu'on doit autoriser ces personnes à prendre une place pleine et entière au sein de l'établissement de formation et au sein du projet pédagogique et au sein du projet d'établissement, et non pas juste les cantonner à des partenaires qu'on mobilise quand on a besoin d'eux. Donc ça veut dire qu'on leur donne une voix pleine et entière au chapitre dans le projet même d'établissement du centre de formation. Après, on revient à la question des prérequis. Notre petit apprenant ou nos petits apprenants qui sont au centre du dispositif, mais qu'est-ce que ça appelle comme compétence, comme aptitude pour pouvoir pratiquer un projet pédagogique de ce type-là. Là, ça renvoie à... c'est un peu mon livre de chevet. Ça renvoie à la notion de du tir instruit, de la métisse développée par Michel Serres. C'est-à-dire que ça transforme un peu l'objet des formateurs. Nous ne sommes plus là pour transmettre une connaissance. On est là pour faire développer par nos apprenants une aptitude qui est celle de l'altérité, qui va leur permettre d'entrer en relation positive avec tous les interlocuteurs avec lesquels on va les mettre en relation. Ça devient notre axe de travail quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, je suis un peu excessif dans mes propos, mais on n'est plus là pour préparer une séance pédagogique sur l'addition avec ou sans retenue. On est là pour préparer des séances pédagogiques qui vont permettre à nos stagiaires de développer une réelle aptitude d'interaction avec des interlocuteurs. Si nous, on ne leur permet pas de développer cette aptitude-là, quand on va les mettre en relation avec ces interlocuteurs-là, ça ne produira pas grand-chose. Et puis, je vais y revenir après. Donc, quelle incidence, après, sur le fonctionnement du centre de formation ? Qu'est-ce que ça appelle comme changement au sein du centre de formation ? Ça, déjà, sur la question des équipes, que des pédagogues de points d'interrogation ? Eh bien, non. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une équipe constituée effectivement de pédagogues, parce qu'il reste du face-à-face pédagogique à l'école de la deuxième chance, hein, je vous rassure, mais aussi constitué d'animateurs de réseaux, de gens qui vont constituer et animer des réseaux, donc un réseau économique, le monde des entreprises, un réseau associatif, un réseau culturel, et après on va décliner les réseaux dont on a besoin, et on va avoir des fonctions à mettre en face de ces réseaux pour animer ces réseaux-là. D'accord ? Après, ça veut dire aussi qu'on a au sein de l'équipe des formateurs, cette fois-là, des gens qui ont une réelle capacité à remettre en cause leur pratique pédagogique. Ils sont là pour animer une modalité d'apprentissage qui n'était pas forcément celle à laquelle ils étaient préparés. Ils ne sont pas là pour, comme je disais tout à l'heure, uniquement animer des séances de face-à-face pédagogique. Ils sont là pour mettre en relation des gens pour provoquer un apprentissage. Je pense que ce n'est plus tout à fait la même perception de son métier de formateur. Ensuite, il faut tous ces interlocuteurs qu'on mobilise. Je ne peux pas me permettre d'appeler un artisan ou d'appeler la DRH d'IKEA ou d'appeler le responsable de la machine à Nantes en lui disant nous sommes mardi, il est 11h, j'ai besoin de vous demain matin, mercredi, de 9 à 12 sur un atelier X ou Y. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de la disponibilité de ces acteurs-là. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique programmatique et qu'il faut avoir de la planification, de l'anticipation, et que celle-ci ne peut pas être contraire pour autant à la logique d'individualisation des formations. Donc là, il y a une espèce de... Et si la coordinatrice pédagogique est dans la salle, elle pourrait en parler, parce qu'il y a une espèce de recherche d'équilibre permanent entre la réactivité nécessaire à la logique d'individualisation des parcours, puis une logique programmatique nécessaire au regard de la disponibilité de nos interlocuteurs. Et puis enfin, et ça c'est peut-être l'essentiel, ne pas cantonner les acteurs locaux à un simple statut de partenaire, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment les laisser entrer dans l'organisme de formation, y prendre une part importante sur le projet pédagogique. Donc ça, mais en même temps, il ne suffit pas de leur dire « Venez, la porte vous est ouverte ». Parce que comme on leur demande d'assumer un rôle qui est peut-être un peu nouveau pour eux, eux-mêmes, ils ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche-là. Donc ça veut dire que les gens que j'ai cités tout à l'heure, les animateurs de commission, les